Votre pays est beau, reprit-il, après un nouveau silence, aussi beau que ma Toscane. Ce n'était pas seulement compliment d'amoureux. Guccio découvrait avec ravissement la douceur de l'île de France, ses collines brodées de forêts, ses horizons bleutés, ses rideaux de peupliers partageant de grasses prairies, et le vert plus laiteux, plus fragile des seigles récemment levés, et ses haies d'aubépines où s'ouvraient des bourgeons gommeux. Quelles étaient ces tours qu'on apercevait au lointain, noyées dans une brume légère vers le couchant? Marie eut beaucoup de peine à répondre que c'étaient les tours de Montfort-l'Amaury. Elle éprouvait un mélange d'angoisse et de bonheur qui l'empêchait de parler, qui l'empêchait de penser. Où conduisait ce sentier? Elle ne le savait plus. Vers quoi l'amenait ce cavalier? Elle ne le savait pas davantage. Elle obéissait à quelque chose qui n'avait pas encore de nom, qui était plus fort que la crainte de l'inconnu, plus fort que les préceptes enseignés et les mises en garde des confesseurs. Elle se sentait livrée entièrement à une volonté étrangère. Ses mains se crispaient un peu plus sur ce manteau, sur ce dos d'homme, qui constituait en l'instant, au milieu du chavirement de tout, la seule certitude de l'univers. Le cheval qui allait reine longue s'arrêta de lui-même pour manger une jeune pousse. Guccio descendit, prit Marie dans ses bras et la posa sur le sol. Mais il ne la lâcha point et garda les mains autour de sa taille, qu'il s'étonna de trouver si étroite et si mince. La jeune fille demeurait sans bouger, prisonnière, inquiète, mais consentante, entre ses doigts qui l'enserraient. Guccio sentit qu'il fallait parler, et ce furent les paroles italiennes pour exprimer l'amour qui lui vinrent aux lèvres. « Ti voglio bene, ti voglio tanto bene. » Elle parut les comprendre tellement la voix suffisait à en donner le sens. À contempler ainsi Marie sous le soleil, Guccio vit que les cils de la jeune fille n'étaient pas dorés comme il l'avait cru, ni ses cheveux vraiment blonds. Elle était une châtaigne à reflets roux, avec une carnation de blonde et de grands yeux bleus foncés largement dessinés sous les sourcils. D'où venait alors cet éclat doré qui émanait d'elle? D'instant en instant, Marie devenait pour Guccio plus exacte, plus réelle, et elle était parfaitement belle dans cette réalité. Il l'étreignit plus étroitement, glissa la main lentement, doucement, le long de la hanche, puis du corsage, continuant d'apprendre la vérité de ce corps. « Non, » murmura-t-elle, éloignant cette main. Mais comme si elle craignait de le décevoir, elle renversa un peu le visage vers le sien. Elle avait entr'ouvert les lèvres, et ses yeux étaient clos. Guccio se pencha vers cette bouche, vers ce beau fruit qu'il convoitait tant. Et ils restèrent ainsi de longues secondes, parmi le pépiment des oiseaux, les lointains aboiements des chiens et toute la grande respiration de la nature qui semblait soulever la terre sous leurs pieds. Quand leurs lèvres se furent séparées, Guccio remarqua le tronc verdâtre étordu d'un gros pommier qui croisait là, et cet arbre lui parut étonnamment beau et vivant, comme il n'en avait jamais vu de pareil jusqu'à ce jour. Une pie sautillait dans le seigle nouveau, et le garçon des villes demeurait tout surpris de ce baiser en plein champ.
« Vous êtes venu ?» « Vous êtes enfin venu, » murmura Marie.
On eût dit qu'elle l'attendait depuis le fond des âges, depuis le fond des nuits. Elle ne le quittait plus du regard. Il voulut reprendre sa bouche, mais cette fois elle refusa.
« Non, il faut retourner, » dit-elle.
Elle avait la certitude que l'amour était apparu dans sa vie, et pour l'instant, elle était comblée. Elle ne souhaitait rien de plus. Quand elle fut de nouveau assise sur le cheval derrière Guccio, elle passa les bras autour de la poitrine du jeune siennois, posa la tête contre son épaule et se laissa aller ainsi au rythme de la monture, liée à l'homme que Dieu lui avait envoyé.